Et il est déjà 18h30 à Paris, c'est l'heure que vous attendez, l'heure du débat. Avec vous, Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique. Et ce soir, dans le débat du jour, nous évoquons l'onde de choc créée par le procès des viols de Mazan qui vient de prendre fin.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Car c'est bien une page de l'histoire judiciaire française qui vient de s'achever, mais ouvre-t-elle une nouvelle ère dans nos sociétés ? Après plus de 3 mois d'un procès hors norme, le verdict a été rendu aujourd'hui dans l'affaire des viols de Mazan. Les 51 accusés ont tous été condamnés. La peine la plus lourde prononcée à l'encontre de Dominique Pellicot, qui écope de 20 ans de prison pour avoir, pendant plusieurs années, drogué son épouse Gisèle Pellicot et l'avoir livrée sexuellement à des inconnus rencontrés sur Internet. Notre question ce soir, est-ce que Mazan va constituer un tournant sociétal? Comment l'émotion générée peut-elle se traduire pour à l'avenir mieux lutter contre les violences sexuelles et faire reculer les inégalités entre les femmes et les hommes? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos 3 invités à mes côtés en studio, Isabelle Rome, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ambassadrice pour les droits de l'homme, ancienne ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Face à vous, Violaine de Philippis Abbat, bonsoir.
Bonsoir.
Avocate, cofondatrice du collectif Action juridique féministe, votre ouvrage classé sans suite, Les femmes victimes de violences face à la justice. Notre 3e invité est en ligne avec nous. Bonsoir Sébastien Garcin.
Bonsoir.
Co-fondateur de la start-up YZR, défenseur de l'égalité, co-fondateur du collectif Men at Work, qui conçoit des outils pour mobiliser les hommes en tant qu'alliés, selon le mot que vous utilisiez, alliés dans le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et auteur de la newsletter Héraclès, astuces pour devenir un bon allié. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Isabelle Rome, votre réaction au verdict. Alors, j'ai livré 2 grands enseignements. Et puis on va faire un tour de table sur cette question. Les accusés condamnés à 20 ans de... qui sont tous condamnés et 20 ans de réclusion criminelle pour Dominique Pellicot. Il y a une 3e information qui est importante à retenir, c'est que les peines sont inférieures aux réquisitions. Quel est votre sentiment général après ce verdict?
Alors déjà, je ne commente pas vraiment cette décision, mais ce que je peux constater, c'est que s'agissant de Dominique Pellicot, la Cour a souhaité lui infliger la peine maximale encourue. Et ce, après avoir examiné sa personnalité, ses capacités de réinsertion, etc. Donc, on voit bien que la Cour a vraiment voulu sanctionner de manière très sévère Dominique Pellicot. Pour le reste, je pense qu'elle a fait le travail d'individualisation qui doit être fait par les juges, c'est-à-dire qu'une fois que la culpabilité est déclarée, eh bien, on procède à l'examen justement de la personnalité de chaque accusé, son parcours, son histoire, son avenir, et au vu de tout cela, des circonstances aussi de commission des faits selon les différents accusés, et au vu de tout cela, eh bien, la peine est individualisée, et je pense que le fait qu'il y ait un grand échelonnement dans les peines démontre ce souci d'individualisation de la Cour.
Ça a été effectivement quelque chose qui a été retenu, qui a été évoqué, cette individualisation des peines. Violaine de Philippis Abbat, vous, quelle est votre lecture, votre ressenti, votre analyse après ce verdict?
La juriste que je suis ne peut que corroborer ce que Madame Rome vient de dire, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une obligation d'individualiser les peines, donc on ne peut pas avoir une peine globale et la même pour tout le monde, ce serait pas possible également. Après, je comprends le sentiment d'incompréhension des justiciables, des militantes, plus largement des citoyennes et des citoyens, parce que la justice a un fonctionnement relativement opaque, c'est-à-dire que il y a une perte de confiance dans l'institution judiciaire. Quand on voit le pourcentage de classements sans suite en matière de violences sexuelles, on peut s'interroger légitimement. Et donc, comme les personnes n'ont plus confiance dans l'institution judiciaire, ça donne cette réaction qui est de contester la décision.
Alors, c'est ce qu'a dit notamment la porte-parole actuelle d'Oser le féminisme. Vous connaissez Oser le féminisme?
Ah oui, tout à fait, je suis au conseil d'administration.
Voilà, qui a dit le message envoyé, c'est le viol, c'est pas si grave, c'est un sous-crime.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on... Je veux dire, les juristes, effectivement, ont cette réponse de dire la peine doit être individualisée. Et puis, la casquette de militante que je comprends aussi et que j'ai, c'est de dire il y a quand même des peines qui sont... Enfin, qui n'ont pas été expliquées, en tout cas. C'est sûr qu'on n'a pas, là, les motifs de la décision. Donc, quand on lit comme ça moins de 10 ans pour un viol, c'est normal qu'on trouve que c'est minimiser le viol. Mais encore une fois, là, on n'a pas les données de savoir justement le parcours de ces hommes. Donc, moi, je suis assez partagée. J'entends tout à fait que ça puisse envoyer un signal de minimisation des viols.
Donc, des peines de 3 ans de prison à 20 ans de réclusion criminelle pour Dominique Pellicot, cette idée d'individualisation qui, en tout cas, donne le sentiment qu'effectivement, il y a eu le souci de prononcer une peine à l'encontre de chacun des 51 accusés. Sébastien Garcin, quelle est votre analyse de ce verdict, vous ?
Je ne suis pas vraiment capable de fournir une analyse, j'ai vraiment aucune expertise.
Il est beaucoup question d'émotion, évidemment.
Ouais, c'est à la fois de la satisfaction de voir quand même que tout le monde est condamné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, bon, peut-être sur une exception près, mais il n'y a pas débat, les gars sont coupables. Donc ça, il y a une espèce de satisfaction. Et après, moi, j'écoute les analyses de quelqu'un comme Violaine, qui est vraiment une experte sur la question, et de beaucoup de collectifs féministes qui sont prononcés là-dessus. Et pour l'instant, je les écoute, je regarde ce qu'elles disent et je prendrai le temps de faire un avis.
Est-ce que vous êtes choqué du fait que les peines prononcées sont, après, encore une fois, les échos, et on va en parler dans ce débat, qui ont été très forts autour de ce procès, tout ce qui a été écrit, que le verdict et les peines prononcées sont en dessous du réquisitoire.
Alors, si la question m'était adressée, oui. Vraiment, j'ai pas les éléments pour analyser. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un progrès, que le fait que tous les accusés aient été déclarés coupables, qu'ils aient quasiment tous pris de la prison, etc. J'ai l'impression qu'il y a un progrès, que dans tellement d'autres affaires, il n'y a pas ce niveau de condamnation. Et j'ai aussi le sentiment que ce progrès n'est pas suffisant. Mais je ne vais pas me prononcer plus avant ça.
Isabelle Rome, puisqu'on pose la question, est-ce que Mazan va constituer un tournant sociétal ? Je vais pas vous demander de justifier ou d'expliquer pourquoi il y a eu ce verdict en dessous des réquisitoires, mais est-ce que c'est un mauvais message qui est envoyé ?
Je crois que j'ai répondu sur le verdict.
Ou est-ce qu'il y a le danger, voilà, en tout cas, que ce soit le mauvais message soit envoyé ?
Moi, je ne vois pas de danger. Je trouve que ce procès, il a été à bien des égards plutôt exemplaire. Du fait même du caractère complètement exemplaire aussi de Madame Pellicot. Enfin, je veux dire, et on ne demande pas forcément d'ailleurs à toutes les victimes d'avoir un tel comportement, mais du fait même de son attitude, d'avoir voulu que ce procès ne soit pas à huis clos, eh bien, elle a permis justement, elle a permis de cette prise de conscience, elle a permis ce choc, parce que moi je trouve que ce procès constitue un choc parce que un choc de vérité, j'aime bien dire ça, parce qu'en fait il apprend ce qu'est le viol, parce que dans 90% des cas les viols sont commis dans l'entourage, alors que je pense que c'est beaucoup occulté au sein de la société. C'est un choc de vérité parce qu'il nous apprend de qui sont les auteurs des viols, c'est-à-dire des hommes assez banals qui peuvent commettre le monstrueux, et nous apprend beaucoup aussi sur le courage des victimes. Et ça, je tiens à le dire, parce que j'ai jugé peut-être... Oui, je pense que j'ai jugé des centaines de viols entre mon expérience de juge d'instruction, correctionnelle, présidente de cour d'assises, et je pense que c'est important aussi de parler de ce courage. C'est vrai que Madame Pellicot, eh bien, en est une expression lumineuse, et par ce procès, grâce à son comportement, mais aussi grâce à ce procès, eh bien, je pense que ce soir, les victimes ne baissent pas la tête, mais la relèvent. Et je pense que ça, c'est important. Et pour le coup, moi, j'ai vraiment le sentiment que, vous savez, on emploie beaucoup cette expression que la honte change le camp. Parfois, je trouve qu'elle est un peu galvaudée.
C'est Gisèle Pellicot elle-même qui a dit la honte doit changer de camp.
Et là, je trouve que vraiment, elle a toute sa place. Oui, ouais. On voit que ce soir, la honte change de camp. Madame Pellicot nous donne à tous et toutes, même des leçons. Voilà. Et finalement, ceux qui se planquent, ce sont plutôt les personnes qui sont condamnées. Enfin, voilà. Donc, je trouve que c'est un bon enseignement. Bien sûr que maintenant, pour moi, ce procès il doit déclencher aussi quelque chose. Mais ça, je pense qu'on y reviendra au niveau de la société, de la société, du droit, etc. Et ça, je pense qu'on y reviendra plus tard.
Mais pour moi,
c'est un élément déclencheur de quelque chose.
La honte a changé de camp pour vous ? Comment ça se traduit, cette honte qui change de camp ?
Je pense que c'est justement par le fait que... moi, on voit aussi qu'on a presque 100 journalistes étrangers qui sont là. Donc moi, j'espère aussi, et moi-même, en tant qu'ambassadrice, j'ai eu plusieurs contacts avec des ambassades, nos ambassades dans différents pays. Ce que j'espère, c'est que ce soir, aujourd'hui, il y a plein de femmes dans le monde qui se disent, ben, on va aller porter à la connaissance de la justice qui nous est arrivée. Oui, Madame Pellicot, c'est notre modèle, et on va aller porter plainte, on va aller dire ce qui nous est arrivé. Et j'espère que ça va se passer, et j'espère que toutes ces femmes ne se sentent plus seules.
Est-ce que concrètement, vous avez le sentiment que le curseur est placé au bon endroit concernant le mot viol ? Parce que de nombreux accusés ont dit qu'ils n'étaient pas des violeurs au cours des audiences. Est-ce que demain, les choses changeront sur ce sujet, selon vous, après ce procès ?
Ça que les accusés disent qu'ils ne sont pas des violeurs...
Bah, la question, c'est est-ce que les violeurs de demain auront conscience qu'ils le sont ?
Justement, il faut qu'on travaille là-dessus. Alors déjà, je pense qu'il y a... moi, je pense qu'il faut changer la loi. Et introduire la notion de non-consentement dans la définition du viol.
Il y a une proposition de loi en cours.
Voilà, là-dessus. C'est ça. Enfin, il y a des... et je me réjouis parce que, que les parlementaires se s'emparent de sujet. Parce que justement, on voit bien que le viol, c'est une question de société. C'est pas une question de femme. C'est pas, voilà, c'est une question de société. Et je trouve que c'est vraiment démocratiquement positif que les députés, les sénateurs se penchent sur cette question et essayent de trouver une solution et que des débats soient ouverts d'ailleurs sur ce sujet. Je pense que ce serait important d'introduire cette notion de non-consentement pour élargir en fait le champ de poursuite. C'est-à-dire, puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a 7 plaintes sur 10 classées sans suite, plus de 40% d'instructions qui se terminent par des non-lieux, c'est-à-dire avec une insuffisance de preuves. Et je pense qu'on pourrait un peu renverser les choses, c'est-à-dire qu'on dirait à la personne mise en cause, eh bien, comment est-ce que vous êtes enquis du consentement de la victime ? Voilà. Après, je ne dis pas que ça soit miraculeux, mais je pense qu'au vu de la situation actuelle et de ce taux de classement sans suite, et je pense que vous en parlez dans votre ouvrage, je pense que ce n'est pas satisfaisant. Donc je pense que c'est un des outils. Après, pour que les hommes de demain, qu'on n'ait plus, malheureusement, je ne sais pas si on en aura plus, mais enfin qu'on en ait de moins en moins, je pense que ça passe vraiment par la prévention et par l'éducation et aussi mettre dans la tête des garçons et des filles d'ailleurs, voilà, des modèles qui soient davantage égalitaires entre les sexes et qu'on n'ait plus toujours ce modèle quand même qui reste encore très véhiculé dans nos sociétés de domination du masculin sur le féminin qui produit la violence. Voilà. Moi, je ne dis pas que les hommes sont par nature violents et les femmes par nature des oies blanches. Je dis simplement que nos sociétés, pas que la société française, produisent depuis des siècles des inégalités avec justement une domination du masculin sur le féminin qui génère de la violence. Et d'ailleurs, ce n'est pas être dans un discours radical de dire ça. Une convention internationale qui s'appelle la Convention d'Istanbul, que la France a ratifiée il y a quelques années, l'a dit clairement qu'il y a une violence structurelle des sociétés à l'égard des femmes.
Vous nous avez dit beaucoup de choses, de prévention à l'avenir pour faire de Mazan un tournant sociétal, c'est la question qu'on pose ce soir. Et il faut changer la loi, vous nous dites. Mais je voudrais faire réagir Violaine de Philippi Sabat sur une phrase importante, une phrase clé de ce procès. Est-ce que vous êtes d'accord avec Isabelle Rome sur le fait que la honte a changé de camp ?
Elle est en train de changer de camp. Il faut voir si le mouvement s'amplifie, se maintient. Donc oui, après, je crois que le terrain urgent, c'est de faire en sorte que lorsqu'une femme vient déposer plainte, elle ait le droit à une enquête. Parce que là, ce qu'on a... le procès des viols sur Gisèle Pellicot, on a une enquête qui a été approfondie et c'est très bien. On devrait pouvoir garantir aux femmes qui vont déposer plainte qu'elles aussi, elles vont avoir le droit à une enquête. Or, aujourd'hui, quand on dépose plainte, se passent des mois où la victime n'est pas informée, ou si elle n'a pas recours à une avocate ou un avocat pour s'enquérir auprès du parquet où ça en est, eh ben, bon courage.
Il y a risque que ce procès hors norme, par son ampleur, crée un effet loupe.
Bah, disons qu'il n'est pas représentatif de la réalité des enquêtes aujourd'hui. Là, par exemple, en moins de 15 jours, j'ai eu 3 classements sans suite sur des enquêtes préliminaires. C'est des femmes qui sont venues me voir à la permanence que je tiens. Donc, je les ai vues il y a moins de 15 jours chacune. Leur dossier a été respectivement classé il y a à peu près 6 mois, finalement. Enfin, elles ne le savent pas quand elles viennent me voir. 6 mois, peut-être 3 mois et un peu moins d'un an. Il a fallu que ce soit moi qui écrive au parquet pour les informer, alors qu'elles ont essayé de téléphoner plusieurs fois chacune, que le commissariat savait pas non plus. Ça, c'est pas normal. Et au-delà de ça, parce qu'à chaque fois, je demande la copie des dossiers dans ces affaires, quand on récupère les copies des dossiers classés, on se rend compte que le téléphone n'a pas forcément été investigué, l'ordinateur non plus. Alors, comment est-ce qu'on peut, en fait, aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas de risque à déposer plainte, alors que clairement, on est sur ce qu'on appelle de la victimisation secondaire. C'est-à-dire que la violence des procédures peut amener à des dépressions, voire des suicides. J'ai déjà eu des parents, là, qui m'ont appelé l'an dernier, un peu moins d'un an, pour le suicide de leur fille de 20 et quelques années après le classement. Et ça, en fait, c'est là qu'on doit travailler. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement, bon, on n'en a plus, le futur ouais. gouvernement fasse quelque chose pour que les parquets ne puissent plus classer sans avoir fait faire des investigations.
Très rapidement, Isabelle Rome, avant de passer la parole à Sébastien Garcin, parce que j'aimerais aussi avoir de son côté les échos de son point de vue. Mais vous qui avez été ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire aujourd'hui pour utiliser le levier du procès?
Oui, je pense qu'en fait, là, on a une forte interpellation des pouvoirs publics aussi, par l'écho médiatique public, justement, de ce procès. Et je pense qu'on a eu cette mobilisation très forte en 2019, après la condamnation de Madame Sauvage pour dans un contexte de violences conjugales. Mmh. Et à ce moment-là, il y a eu ce Grenelle des violences conjugales qui a été déclenché avec un énorme travail qui a été fait en interministériel, mais aussi avec les collectivités territoriales, avec les associations, avec les barreaux, avec les médecins, enfin vraiment de manière très pluridisciplinaire. Et s'agissant des violences conjugales et intrafamiliales, je pense qu'on ne peut pas contester objectivement qu'on a fait quand même un certain nombre d'avancées, mise en place de nouveaux dispositifs, de nouvelles lois, etc. L'ordonnance, ouais. Voilà. Et donc, je pense que ce focus qu'on a eu en 2019, qui a donné lieu au Grenelle des violences conjugales, aujourd'hui, il faut qu'on l'ait sur les viols, sur les violences sexuelles, et provoquer ce même travail. Je suis d'accord aussi pour qu'il faut qu'on améliore la qualité des enquêtes. On a fait, par exemple, sur les violences conjugales, un peu une grille d'audition pour les services de police. Voilà, on peut travailler aussi à des grilles d'enquête. Voilà, je pense qu'on peut aussi, bien sûr, améliorer les choses.
Sébastien Garcin, vous êtes cofondateur d'une start-up, cofondateur du collectif Men at Work, qui conçoit des outils pour mobiliser les hommes en tant qu'alliés, encore une fois, selon le mot que vous utiliser pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez quel accueil de la part des hommes que vous avez pu rencontrer dans le cadre de vos fonctions? Quel accueil à propos de ce procès des viols de Mazan est-ce que vous avez eu de la part des hommes?
J'ai vraiment vu un changement.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que quand on parle de façon générale, bon, ça fait un certain temps que je parle des problèmes d'égalité, des problèmes des violences sexuelles et sexistes, etc. Et on a généralement des hommes qui se sentent pas très concernés. Parce qu'eux-mêmes vont dire qu'ils sont pas coupables, on veut bien les croire, et à partir de là, ça devient un problème de femmes. Là, l'effet de l'affaire Mazan, c'est qu'on a pris conscience que les hommes capables de ça sont nombreux. C'est peut-être pas moi, c'est peut-être pas mon voisin, mais c'est peut-être mon collègue, c'est peut-être le type avec qui je joue au foot, c'est peut-être les potes avec qui je vais voir des matchs, etc.
Il y avait sentiment parmi les 51 accusés que c'était Monsieur Tout-le-Monde, informaticien, électricien.
Cette banalité est terrible. Moi, j'ai passé une journée à Avignon pour assister au procès. C'était la présentation des personnalités des accusés. Et c'était terrifiant à quel point ça peut être n'importe qui. Et ça, il y a eu un effet. J'ai ressenti cet effet auprès des nombreux hommes avec qui j'interagis sur ces sujets. Et j'organise des groupes de parole, etc. Et soudain, on s'est rendu compte que c'était un peu plus simple qu'avant de recruter des hommes pour venir parler de ça. Et je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas un effet fort là-dessus. Il y a eu un effet aussi très pédagogique sur la culture du viol. On a beaucoup parlé de ça dans les médias, on a beaucoup abordé le sujet, un peu sous tous les angles. Et ça, on a élevé, je suis convaincu qu'on a élevé le niveau global de la connaissance sur ce qu'est le viol, sur ce qu'est la culture du viol sur ce sujet-là. Et moi, mon enjeu là-dessus, c'est d'aller réveiller les hommes pour leur dire, t'es sans doute pas, le fait que tu sois coupable ou pas, c'est pas ça dont je veux te parler, mais t'es responsable parce qu'il y a des types près de toi, il y a des copains à toi qui sont capables de faire ça. Et qu'est-ce que toi, dans ton comportement, dans tes mots, dans tes acceptations, dans tes silences, qu'est-ce qui leur permet de se dire que c'est OK?
Un vrai changement, nous dit Sébastien Garcin. Rapidement, Violaine de Philippi Sabat, avant de passer à la seconde partie du débat. Comment est-ce que on peut éviter, parce que est-ce que le fait qu'on ait ce sentiment que c'était Monsieur Tout le Monde parmi les 51 accusés, c'est cette prise de conscience pour éviter de tomber dans le sentiment que on a jugé le plus grand criminel qui a entraîné avec lui 50 trop de personnes, mais que c'était bien le procès de la culture du viol, comme cela a été souvent dit.
Je crois qu'il reste quand même un écart entre ce que l'opinion publique peut percevoir comme banal et ce procès, puisqu'il y a beaucoup d'hommes notamment, mais aussi de femmes, qui vont réagir en disant la chose suivante. Oui, mais ce sont des viols via le site Coco, c'était des viols organisés. Donc reste encore le caractère un peu, en tout cas, hors du quotidien. La plupart des viols se passent dans un cadre beaucoup moins, on va dire, enfin, beaucoup plus ordinaire, quoi. Ouais. Des viols dans le cadre du couple, des viols dans le cadre de relations naissantes, et donc pas sur des sites échangistes. Voilà. Ouais. Et ça met quand même ouais, une distance, ce qui fait qu'il y a encore ce manque-là, qui est de se dire que potentiellement, on connaît tous quelqu'un qui a violé quelqu'un et pas forcément en passant par un site.
Et ce procès a mis le doigt là-dessus, selon vous?
Oui et non. C'est que on n'a pas encore eu un procès vraiment, récent, médiatisé, sur une affaire de viol, je mets des grosses guillemets, banale, mais donc le plus courant. C'est-à-dire le viol où, voilà, je peux vous donner un exemple, une femme vingtaine d'années qui vient me voir à la permanence et puis elle me dit, bon, elle me raconte le récit de son viol et à la fin, elle me dit, et à la fin, il s'est assis au bord du lit, il a pleuré et il a dit qu'il était désolé et que je devais le prendre pour un monstre. Et ça, cette phrase revient souvent. Et ça, c'est entre guillemets le viol ordinaire, courant, qui n'en est pas moins, c'est toujours un viol. Et ça, dans l'esprit, je crois, de l'opinion publique, c'est encore difficile à entendre.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Mazan va-t-il constituer un tournant sociétal? La question qu'on pose ce soir, au soir de l'énoncé du verdict, après plus de 3 mois de procès, la peine la plus lourde prononcée à l'encontre de Dominique Pellicot, 20 ans de prison pour avoir drogué pendant plusieurs années son épouse Gisèle Pellicot et l'avoir livrée sexuellement à des inconnus rencontrés sur Internet. Gisèle Pellicot qui est saluée à travers le monde aujourd'hui. Je vais citer quelques réactions. Quelle dignité, merci Gisèle Pellicot. Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui a réagi sur X. Olaf Scholz, le chancelier allemand, vous avez donné une voix forte aux femmes du monde entier. La honte est toujours du côté de l'agresseur. Et puis la presse internationale, juste ce mot, merci, en couverture du quotidien allemand Tagesschau Zeitung, à côté du visage de Gisèle Pellicot qui est devenue, selon le New York Times, le visage du courage. On va l'entendre, Gisèle Pellicot, on l'a beaucoup entendu aujourd'hui, vous l'avez beaucoup entendu dans les éditions de RFI, mais évidemment, sa première prise de parole après ce verdict était très attendue et elle s'est exprimée tout à l'heure à Mazan.
Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puissent se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle.
Alors Isabelle Rome, comment il peut se traduire cet avenir après ce procès Pellicot? Comment il peut se traduire en gain en termes de plus d'égalité entre les femmes et les hommes et en gain pour faire reculer les violences sexuelles à l'égard des femmes?
Je crois qu'effectivement, il faut vraiment transformer l'essai, si on peut dire. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller plus loin. Et donc, c'est à la fois, bien sûr, mieux réprimer, mieux punir tous ces faits et davantage poursuivre. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler je reviens, mais sur l'éducation, ouais. mais aussi, parce que ça, je pense que c'est important, on n'en a peut-être pas toujours conscience, lutter aussi contre ce sexisme ordinaire, voilà, qui existe encore beaucoup, et particulièrement dans la société française. C'est-à-dire que je pense qu'on est encore trop complaisant à l'égard des comportements, des propos qui sont dégradants. Moi, j'ai rencontré quand même beaucoup de jeunes femmes, parce que c'est plutôt quand même à des jeunes femmes que ça arrive, et souvent pas forcément très haut dans la hiérarchie, qui venaient au travail la boule au ventre le matin parce qu'elles savaient qu'elles allaient avoir une réflexion d'un supérieur ou d'un collègue qui allait leur demander ce qu'elles avaient fait pendant la nuit ou leur faire une réflexion sur leur tenue, etc. Et je pense qu'on n'a pas assez conscience encore du caractère destructeur de ce sexisme au quotidien. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important. C'est pour ça que dans les entreprises, dans les institutions, etc., il faut que la sensibilisation, elle soit massive sur ce sexisme qu'on appelle ordinaire, mais qui est en fait une vraie
Bien
violence.
Sûr. Et qui est en amont, finalement, des situations
Je suis 300% qu'on a jugé
peut-être pendant 3 mois. Mais justement, cette prise de conscience, vous nous avez dit qu'elle n'était pas à la hauteur des enjeux tout à l'heure, Violaine de Philibis Abbat. Mais alors, que faire pour être à la hauteur de ces enjeux, alors qu'il y a une régression quand même de l'égalité femmes-hommes qui a été constatée, les chiffres le disent, ces dernières semaines, ces derniers mois.
Oui, une recrudescence
on est quand même de nombreuses années après le lancement de MeToo.
Bah, je crois qu'on est en période de backlash. Donc, c'est un phénomène qui avait été théorisé à la fin des années 70-80 par Suzanne Faludi. Qui avait expliqué comment, après le mouvement de libération des années 70, les idées réactionnaires étaient remontées. Et Suzanne Faludi, donc, qui avait écrit ce livre qui s'appelle Backlash, s'est récemment exprimée en disant « Je crois que là, on assiste au backlash post-MeToo. » Et donc, les idées réactionnaires, après que MeToo soit passé par là, remontent. Parce qu'en réalité, ça fait plaisir à personne de se remettre en question. Et c'est-à-dire qu'au lieu de balayer devant notre porte, et je parle aussi pour les femmes, mais en premier lieu pour les hommes, bien sûr, mais on fait société ensemble et les femmes aussi peuvent être sexistes, eh bien, on ne veut pas voir. Donc, finalement, on va revenir au rôle traditionnel. Et ce que disait Isabelle Rome est tout à fait juste, je crois. C'est-à-dire qu'il y a un manque de prise de conscience dans la société du lien qui existe entre le sexisme ordinaire et les violences. Et en général, on va dire, non, mais attendez, on ne va pas tout mettre au même niveau. Hein, c'est pas parce qu'il a fait une réflexion sexiste qu'on va le mettre en prison, vous exagérez. Mais attendez, déjà, personne ne dit ça. Par contre, comme l'individu a du mal à se remettre en question, il préfère faire la déconnexion entre les deux et dire que ça n'a rien à voir. Or, ça a à voir. Puisque quand on met dans la tête des petites filles, des petits garçons, que le petit garçon il doit être fort, costaud, pas pleurer, viril,
il crée la domination masculine.
Voilà, et que la petite fille elle doit être douce, sage, sentir bon. Vous voyez, je caricature à peine. On crée donc deux catégories d'individus qui ont des rôles spécifiques. Et là, je parle même pas des différences biologiques. Hein. Je vous dis juste que les différences biologiques ne donnent pas à chacun des destins sociaux séparés. C'est pas parce qu'on est une fille que il faut qu'on soit douce et qu'un garçon doit être violent. Et donc ça, tant qu'on n'explique pas que ça a un impact, et même quand on l'explique, en fait, les gens se bouchent les oreilles souvent.
Le discours doit évoluer. Comment il peut évoluer à travers les sociétés? Parce qu'on l'a dit, il y a eu des dizaines de médias étrangers qui ont suivi Mazan. Les situations dans ces pays, elles sont différentes?
Malheureusement, c'est pas tant que ça non plus. C'est-à-dire, évidemment, il y a des grosses différences. Je pense notamment à la situation des femmes dans des pays comme l'Iran, l'Afghanistan. Voilà, c'est terrible. Et d'ailleurs, les réactionnaires s'en servent pour dire « Attendez, vous avez vu comment c'est là-bas? Pourquoi vous n'allez pas là-bas plutôt, hein? Je préférais vous parachuter là-bas pour voir ce que vous feriez. » C'est parce que Geoffroy Lejeune avait dit ça sur moi. « Plutôt que vous voir ici avec vos pancartes. » Et donc, en fait, ils s'en servent, les réactionnaires, pour dire « En France, tout va très bien. » Et en fait, le problème, c'est l'immigration. Mais c'est faux. Là, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est parce qu'en fait, finalement, c'est toujours le même sujet. C'est-à-dire qu'on ne veut pas regarder
les
problèmes.
Différences culturelles, le sujet, il est commun.
En fait, on ne veut pas regarder les problèmes qu'on a aussi autogénérés, comme si l'histoire de France était absolument purgée de toute problématique sexiste. C'est vrai que Napoléon était tout à fait féministe. On pourrait en parler des heures de ça.
On pourrait en parler des heures, mais on va s'arrêter là. En tout cas, pour répondre à la question, Mazan sera un tournant sociétal à condition, évidemment, de d'utiliser un petit peu ce levier, exactement, de s'emparer effectivement de cette onde de choc et de la transformer avec davantage de prévention, avec une nouvelle loi qui introduise le consentement dans le droit public, vous nous avez dit, Isabelle Rome. Merci beaucoup à vous trois. Isabelle Rome, ambassadrice pour les droits de l'homme, ancienne ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Violaine de Philippis Abbat, avocate, cofondatrice du collectif Action juridique féministe, et Sébastien Garcin, cofondateur de la start-up YZR, défenseur de l'égalité, cofondateur du collectif Men at Work. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat du jour, Claude Battista à la réalisation. On marque une petite pause dans le débat du jour, on ne sera pas là la semaine prochaine, on revient à partir de lundi 30 décembre. En tout cas, vous êtes bien sur RFI, et dans 30 secondes, ce sera le grand journal du soir, présenté par Arthur Ponchelet.